Vous écoutez
RMC.
7h sur RMC, très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'exode massif des Libanais qui se retrouvent par milliers sur la route, appelés à évacuer, terrorisés, fuyant les bombes. Tout doit être fait pour empêcher le Liban de replonger dans la guerre, dit ce matin Emmanuel Macron, qui promet l'envoi d'aide humanitaire. 5000 Français ont fait part de leur volonté de quitter le Moyen-Orient, rapatriement rendu compliqué par la situation dans les airs. Hier, un avion affrété par Air France a dû faire demi-tour. Et Lens, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, tombeur de Lyon hier soir au tir au but.
Des infrastructures du pouvoir iranien continuent à être ciblées par Israël.
Une série de frappes à grande échelle menées sur Téhéran tôt ce matin par l'État hébreu qui annonce entrer dans une nouvelle phase de la guerre en Iran. Israël qui intensifie dans le même temps ses frappes au Liban. Des raids aériens ont été menés dans le sud du pays au lendemain de ces appels massifs à évacuer. Panique hier dans les rues de Beyrouth où des milliers d'habitants ont dû fuir à la hâte. Depuis le début du conflit, on parle d'une centaine de milliers de déplacés, des civils déboussolés ne sachant pas où aller. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Marion Gauthier, Inès Zegloul.
Des packs d'eau et quelques sacs de course rangés à la hâte dans le coffre de la voiture. Une caresse dans les cheveux de son fils. Nous sommes déplacés désormais, explique Bassem. Il a la voix presque sereine, le sang-froid du papa, dit-il, du père, qui se veut rassurant.
Au fond de moi, la rage se propage jusqu'à me faire mal aux jambes. Où veulent-ils qu'on aille? On émigre? On sorte du pays?
Il tourne son regard vers le nord. Cette autoroute qui est censée le mettre à l'abri, le mener hors de son Darier natal, son quartier sous les bombes.
On a été éduqués, on a travaillé, on a vécu dans ce quartier et on va mourir dedans. Il n'y a pas d'autre solution.
Il invoque désormais la patience. Wissam, lui, n'en a plus.
Je me sens triste, je suis énervé, j'ai peur. Que restera-t-il de chez nous? Pourquoi veulent-ils tout raser?
Lui aussi espère revenir, mais à quoi ressembleront les rues de Darier? Il s'interroge à quoi ressembleront les rues de Beyrouth quand les avions de chasse seront partis.
Et face à cette situation, Emmanuel Macron annonce l'envoi de plusieurs tonnes d'aide humanitaire sur place. Le chef de l'État se pose en médiateur pour empêcher que le Liban ne bascule dans la guerre. Il précise sur ses réseaux sociaux hier soir que la France n'est pas engagée dans le conflit au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas au combat. Il appelle également à sécuriser via une coalition le détroit d'Ormuz. Cette voie de passage stratégique pour les bateaux qui transportent entre autres du pétrole. Le cours de l'or noir a explosé en une semaine avec des répercussions ici en France. 5 à 20 centimes de plus en une semaine, dit le ministre de l'économie Roland Lescure dans Le Parisien ce matin, précisant qu'il n'y aura pas de pénurie. Dans le doute, les Français se ruent à la pompe au point que certaines stations ont dû fermer temporairement. Philippine Boulet.
Oui, comme dans cette station-service à Bichevilleur dans le Bas-Rhin, où la demande en carburant est 50% plus élevée que d'habitude. Une employée m'explique que les pompes sont prises d'assaut depuis le début de semaine. Les automobilistes sont plus nombreux à faire des pleins complets. Certains viennent même remplir des jerrycans. Résultat, la station a dû fermer pendant une partie de la journée mercredi, en attendant d'être réapprovisionnée. Même constat en Seine-Maritime, près du Havre, où les cuves d'une station ont été complètement vidées en 3 jours. Du jamais vu, m'a-t-on confié. Dans le Maine-et-Loire, un directeur de station près d'Angers a demandé à son personnel de vérifier que les clients ne fassent pas de réserve et a même pris la décision de fermer la nuit.
Pour éviter quelques abus qu'on aurait pu avoir et pas contrôler du coup la nuit, puisque il y a personne. D'autres clients qui auraient peut-être besoin de manière plus urgente de carburant, ne pourraient plus en avoir puisqu'on n'en aurait plus dans les cuves.
Selon le ministère de l'économie, les ruptures de stock de carburant se concentrent notamment dans les départements du Pas-de-Calais, du Nord ou encore des Bouches-du-Rhône.
Et pour faire le plein moins cher, RMC lance une carte interactive pour trouver le carburant le moins cher autour de chez vous. Une carte à retrouver en temps réel sur le site et l'application RMC. Autre conséquence de ce conflit dans les airs, hier, un vol à destination des Émirats Arabes Unis affrété par Air France, destiné à rapatrier des Français, a dû faire demi-tour. À ce jour, 750 ressortissants français ont pu rentrer en France. Ils sont pourtant près de 5000 à en avoir fait la demande. C'est ce que dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a détaillé sur TF1 hier soir les moyens de rapatriement.
Certains avions militaires qui faisaient des rotations dans la région, notamment en soutien à nos partenaires, ont pu ramener un certain nombre de nos compatriotes. Mais ce sur quoi nous insistons beaucoup, et nous avons obtenu aujourd'hui un accord des autorités émiriennes, c'est un relèvement du nombre de vols qui quittent les Émirats Arabes Unis chaque jour pour que nos compatriotes qui y sont aujourd'hui bloqués puissent trouver plus facilement des billets et rentrer en France.
À retenir également ce matin les mots de Donald Trump qui réfute l'idée d'envoyer des troupes au sol en Iran. Ce serait une perte de temps, dit le président américain qui appelle les gardiens de la révolution à déposer les armes et la population iranienne à s'emparer du pouvoir. Il est 7h05, vous écoutez RMC. 4 ans de prison avec sursis requis à l'encontre de Christophe Hellul, jugé depuis mardi pour homicide involontaire de sa compagne Elisa Pilarski, mordue par Curtis, un américain pitbull terrier importé illégalement en France, détenu par l'homme qui a prononcé avant les réquisitions ces derniers mois à la barre. Constance Bostoen du service police-justice était à l'audience pour RMC.
Oui, debout face au tribunal, Christophe Hellul fond en larmes. J'aimais Elisa plus que tout. Si j'avais su qu'il pouvait y avoir un risque, j'aurais pris les dispositions nécessaires. Une émotion de la part d'un homme détruit, selon Maître Novion, son avocat, qui a plaidé la relaxe quelques minutes plus tôt.
Il est complètement essoré, il est vidé. On a compris que c'était pas un simulateur, que c'était pas un imposteur, que c'était une vraie victime. S'il a commis des fautes, il a payé.
Dans un réquisitoire de 2 heures, la procureure de la République s'est adressée directement au prévenu. En adoptant Curtis et en l'entraînant ainsi, vous avez importé une arme, dit-elle, avant d'admettre, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je sais que vous avez tout fait pour mettre Curtis hors de cause. Car à l'issue de 3 jours d'audience, de nombreuses zones d'ombre planent toujours sur cette affaire, comme le regrette l'avocat de la famille de la victime.
On attendait sa vérité, enfin la vérité, qui nous la donne. Bon, il ne faut pas parler, bon, c'est conforme à ce qu'on pense depuis 5 ans. Bon, on vient pour une vérité judiciaire et on n'aura que ça, malheureusement.
La procureure de la République a également requis l'euthanasie de Curtis. La décision sera rendue le 11 juin prochain.
Lui ne sera pas jugé pour meurtre, mais pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le policier, auteur des tirs mortels à bout portant contre Naël en 2023, la cour d'appel de Versailles a décidé de requalifier les faits et de ne pas renvoyer le policier devant les assises.
7h07 sur RMC, Lens qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France.
Et ça s'est joué encore une fois au tir au but, les 100 erreurs et les 1000 lions. Et peuvent se prendre à rêver, Valentin Jamin, de soulever le trophée qu'ils n'ont jamais remporté.
Beaucoup de cris de joie, des joueurs qui dansent sur le terrain puis dans les vestiaires, heureux de cette qualification.
Non, de la joie, pas de soulagement, on a confiance en nous.
Le défenseur Mathieu Hudol et ses coéquipiers dominateurs avaient pourtant été rejoints à la dernière minute alors qu'ils menaient 2-0.
On est très content de l'issue de la rencontre. Le scénario aurait pu nous mettre un coup derrière la tête, mais on s'est vite remobilisé pour cette séance de tir au but. On est à une victoire d'aller en finale et à deux de soulever cette coupe, donc ça se précise de plus en plus. C'était déjà un objectif dès notre premier tour.
Deuxième de Ligue 1, Lens vit donc une saison de rêve avec la Ligue des Champions en ligne de mire et une première demi-finale de Coupe de France depuis 16 ans. Le coach Pierre Sage a souffert.
Je sors rincé. Je suis très fatigué. J'ai l'impression d'avoir joué.
Mais sans Paris, Marseille et donc Lyon, il rêve de soulever la première Coupe de France de l'histoire du club.
Aujourd'hui, je pense que les joueurs méritent une récompense. Vu qu'on est les seuls acteurs de cette récompense qu'on se crée pour nous-mêmes, on va mettre toute l'énergie nécessaire pour atteindre nos deux objectifs.
Dernier obstacle avant la finale, Toulouse à domicile fin avril.
Et l'autre demi-finale opposera Strasbourg à Nice. Le coup d'envoi de la 25e journée également ce soir de Ligue 1 avec un choc. Paris qui reçoit Monaco 20h45 sur RMC. Puis notez qu'à moins de 100 jours de la Coupe du Monde de foot, Walid Regragui n'est plus ce matin le sélectionneur du Maroc. Il a été remplacé par Mohamed Wahbi.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC. Et on va parler des prix à la pompe parce qu'il y a jusqu'à plus 15 et 20 centimes le litre en une semaine pour le sans-plomb et pour le gasoil. On l'a tous constaté. Et pourtant, le gouvernement nous avait dit non, il n'y aura que quelques centimes. Le prix du carburant flambe. Alors, à qui la faute? Bonjour, Francis Pousse.
Bonjour.
Vous êtes le président des stations-services pour Mobilience. Vous représentez plus de 5000 stations indépendantes. Les profiteurs, c'est pas nous. Voilà ce que vous nous dites. Votre parti pris sur RMC, il va bien falloir quand même comprendre où est-ce qu'il passe ces centimes en plus, ces 15 à 20 centimes. On va réfléchir et essayer de comprendre avec vous dans un instant. Et puis vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être sur les routes, appelez-nous au 3216 pour nous dire le prix affiché à la pompe. On vous attend, il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story Canal 23. Le ministre de l'économie a fini par reconnaître que oui, il y avait une augmentation des prix à la pompe. J'ai envie de vous dire, s'il avait écouté RMC, il n'aurait pas fait les mêmes erreurs, effectivement, de nier pendant quelques jours toute augmentation. Alors oui, le sans-plomb, il a augmenté de 10 à 15 centimes le litre en une semaine et c'est même jusqu'à 20 centimes pour le gasoil. Bonjour Francis Pousse.
Bonjour.
Président des stations-services pour Mobilience, vous représentez plus de 5000 stations indépendante. C'est à faute à qui?
En tout cas, c'est pas notre faute à nous, puisque nous, on est en fait, comme le consommateur, on subit la hausse des prix, qui effectivement a été très rapide, pour deux raisons. L'augmentation du baril, bien évidemment, et surtout, sur le marché international de Rotterdam, qui s'appelle le Platz, l'augmentation très importante du coût du produit fini. Par exemple, le diesel, hein, qui a dépassé...
Mais ça peut pas être les conséquences déjà de la guerre. C'est quoi? C'est une anticipation?
C'est probablement une anticipation de la part de l'amont, c'est-à-dire des fournisseurs, des producteurs, sur un prix qui continuerait à monter. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit, effectivement. Et comme vous l'avez précisé, il y a bien des hausses à la pompe, de l'ordre de 10 à 20 centimes. C'est la moyenne, hein. On voit effectivement des endroits où c'est un peu plus cher, en particulier en région parisienne. Mais la hausse est là, malheureusement.
La hausse est là, malheureusement. J'avoue que j'étais déjà sidérée mercredi matin. Je recevais la porte-parole du gouvernement, qui est la nouvelle ministre de l'énergie, précisément, Maud Bréjon, qui me disait « ça va augmenter, mais de quelques centimes ». Et je lui disais « mais ça a déjà augmenté ». On était mercredi, ça avait déjà augmenté. Elle avait l'air de le découvrir. Ce qui me fascine, c'est que mercredi, ça avait déjà augmenté. Alors, pas encore au niveau d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre 15 et 20 centimes, effectivement, le litre. Mais... ça veut dire que mercredi, on n'était que trois jours après le début des bombardements. Quand vous dites l'amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fournisseurs, ça veut dire que les pétroliers, ça veut dire que les grossistes qui viennent vous donner les citernes, ils avaient, dès le lundi, mardi, augmenté leur prix?
Oui, effectivement, mais c'est l'étalon, c'est cette fameuse cotation à Rotterdam du prix. Donc, c'est le prix de référence, ce sont les prix de référence du marché européen.
Il a eu l'air quand même de dire, le ministre de l'économie, alors vous étiez d'ailleurs vous-même à Bercy hier avec lui pour cette fameuse réunion où il a convoqué les distributeurs de carburant, il a quand même eu l'air de dire que c'était aussi de votre faute, puisqu'il dit qu'il va faire des contrôles dans les stations. Sous-entendu, on va quand même vérifier que vous vous gavez pas au passage.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on lui a expliqué. Moi, je n'ai pas peur des contrôles, puisque la plupart de mes adhérents sont tout à fait vertueux. Rappelons qu'en France, les grandes surfaces représentent 63% de parts de marché. Donc nous, on est face à une concurrence accrue de discounters du carburant. Alors d'ailleurs, discounters en ce moment, ils sont pas forcément dans le même camp. Mais le contrôle des marges est possible. Mais je tiens quand même à rappeler que le carburant bénéficie d'une liberté des prix au même titre que la baguette de pain, et que je ne vois pas comment la DGCCRF pourrait sanctionner des stations-service qui éventuellement profiteraient, et ce que je réprouve complètement.
Hein. Et on rappelle d'ailleurs que 51% du prix, c'est des taxes.
C'est ça, 60 centimes sur le gasoil, 67 centimes sur le sans-plomb, plus la TVA, tout au bout du bout, qui s'applique également sur la taxe.
Et vous êtes tous sur les routes et vous le constatez, effectivement, cette augmentation des prix. Eric, qui est livreur du côté de Quimper. Bonjour Eric.
Bonjour.
Eric, vous êtes livreur de journaux et vous utilisez, je crois, votre véhicule personnel. Ça veut dire que ça va être de votre poche?
C'est ça, parce qu'en fait, nous, par la rédaction, on reçoit tous les mois un défrayement, en fait, qui vacille entre 21 et 23 centimes du kilomètre.
D'accord.
Ça peut paraître énorme, mais ce montant, en fait, prend en considération aussi le fait que si on a des pièces à changer sur la voiture, etc.
Pardon, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, Eric? Je vous entends
oui.
Pas bien.
Allez-y. Que si on a des pièces à changer sur la voiture, etc., c'est pris en considération aussi avec ce montant, en fait, de cet effrayement. Sauf que là, on vient de prendre 20%, grosso modo, de hausse de carburant. J'ai du mal à croire que la rédaction, le mois prochain, va me mettre 20% de plus, en fait, en défrayement.
Vous travaillez pour quel journal, Eric?
Je ne sais pas si je dois forcément.
Oh bah vous pouvez, non, vous pouvez. Ici, il n'y a aucune gêne. Hein.
Oui, mais c'est surtout
par
rapport
au journal. Bon, enfin, à Quimper, je me dis que c'est pas. Vous vendez pas Sud-Ouest, quoi.
Non, voilà.
Le Républicain Lorrain.
Ni le Républicain Lorrain. Et Eric, pour le coup, ça veut dire qu'à la fin, ça peut vous faire un très gros manque à gagner. Est-ce que vous allez quand même plaider, effectivement, pour que ce soit défrayé? Je suis étonné d'ailleurs que ce soit pas défrayé, que ce soit des frais fixes.
Je vais même pas forcément le faire. Parce qu'en fait, je suis même pas sûr que ce soit la rédaction en fait de prendre en charge ça. Au bout d'un moment, si moi je demande à la rédaction de le faire, c'est pareil, c'est le lecteur en fait final qui va devoir le payer aussi. Donc en fait, je suis même pas sûr de le faire. Par contre, je me suis bien mis en évidence que je pense que ce mois-ci, je vais bosser trois jours pour cette augmentation.
Ah, c'est-à-dire que vous allez éventuellement faire un peu plus de boulot par ailleurs. Eric, ça veut dire que vous commencez très tôt? Vous commencez à quelle heure?
Vers 3h du matin environ.
Vers 3h du matin. Et vous êtes livreur de journaux ou vous faites d'autres livraisons en plus?
Que les journaux.
tous les journaux. Eh ben, formidable. Merci en tout cas, Eric, d'être passé par le 32-16. Effectivement, les conséquences, et d'ailleurs, si vous êtes ambulancier, taxi, appelez-nous pour nous dire comment est-ce que vous allez pouvoir amortir, en quelque sorte, ces hausses. La question de la pénurie, est-ce que cette question se pose, Francis?
Non, sincèrement, aujourd'hui, la question ne se pose pas. On est par rapport à d'autres périodes de tension, on est parti, j'allais dire, en début de crise, avec des stocks qui sont très importants, tant au niveau national qu'au niveau mondial. Les approvisionnements continue. On est très peu dépendant. La France est très peu dépendante des approvisionnements qui passent par le détroit d'Ormuz. Et puis, en plus de ça, on a nos fameux stocks stratégiques, ces 3 mois de consommation qui peuvent être déclenchés n'importe quand.
Et encore une question, si on se projette, en une semaine, ça a pris 15 à 20 centimes. Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce qu'on peut se dire que dans les semaines qui viennent, cette hausse va se poursuivre?
Incapable de vous dire. C'est l'étalon, c'est effectivement le baril, puis les produits cotés à Rotterdam. Il faut suivre l'évolution du baril pour voir ce qui va se passer. Il a encore un petit peu malheureusement augmenté depuis hier. Et n'importe quelle situation d'ampleur dans cette guerre au Liban, dans cette guerre en Iran, pardon.
Et aussi au Liban,
effectivement, pourrait avoir des conséquences importantes si les raffineries.
Ça veut dire que ça peut se prolonger et qu'en tout cas, il ne faut pas espérer que ça baisse dans les jours qui viennent.
Non, sincèrement, non.
Merci beaucoup, Francis Pousse. Francis Pousse, vous êtes le président des stations-service Mobilience. Vous représentez toutes ces stations-service indépendantes. Je vous rappelle, cette grande opération RMC est à vos côtés. On vous aide à faire votre plein partout en France. Vous pouvez trouver la station essence la moins chère autour de vous et c'est en temps réel, une carte interactive sur le site et l'application RMC. Et puis, il y a par ailleurs vos témoignages. Vous nous appelez au 3216. Dites-nous les prix autour de chez vous. Pendant ce temps-là, le chevalier, effectivement, d'RMC, Arthur Chevalier, qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Vous nous emmenez à New York ce matin. Parce qu'il y a un film qui va raconter l'histoire de la Statue de la Liberté.
Oui, ce symbole de New York, donc, a été en fait conçu par un Français. Et à l'origine, figurez-vous que la Statue de la Liberté devait être en Égypte, Apolline. C'est une histoire complètement folle.
Oui, c'était pas la même chose. Arnaud Demange va venir aussi pirater le face-à-face. Restez bien avec nous. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22 et on remonte le temps sur RMC comme chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Arthur, on l'a appris cette semaine, il y a un projet de film sur la Statue de la Liberté qui est donc en préparation. Et derrière la caméra, il y aura le réalisateur de Jappe le Loup.
Oui.
De Tempête. Il faut que je retourne au cinéma.
Oui, alors c'est un film consacré aux coulisses de la construction de la statue iconique de New York. Ça s'appellera Lady Liberté. Et entre nous, le sujet le mérite parce que la réalisation de cet édifice du 19e siècle a été un vrai parcours du combattant. On a même cru qu'elle ne verrait jamais le jour.
D'ailleurs, la Statue de la Liberté, elle a des origines françaises. Hein.
C'est même mieux que ça puisqu'elle est française, la Statue de la Liberté. Celui qui l'a conçue, dessinée, fabriquée, c'est un architecte alsacien. Il s'appelait Frédéric Auguste Bartholdi. Sauf qu'à l'origine, Bartholdi imagine ce projet pour l'Égypte et pas du tout pour les États-Unis. La statue devait même être à l'entrée du canal de Suez. Et dans cette première version, cette statue représentait une paysanne égyptienne. Et son premier nom, c'était l'Égypte apportant la lumière à l'Asie.
Alors ce projet-là, il a été abandonné.
Oui, parce qu'en fait, l'Égypte n'avait pas les moyens de le payer. Donc on arrête. Mais Bartholdi ne se décourage pas. Il reprend ses croquis. À la place de la paysanne, il fait une figure gréco-romaine. Donc en fait, le visage qu'on connaît aujourd'hui sur la Statue de la Liberté. Et en 1871, il part pour les États-Unis avec ses dessins sous le bras, avec un objectif: trouver des subventions pour son projet. Bon, il va frapper un peu à toutes les portes, y compris à celle du président des États-Unis, qui s'en fichait complètement. Personne n'était intéressé, donc il rentre avec quelques financements, mais pas grand-chose.
Et comment ça se passe pour débloquer le projet, alors?
Alors en France, finalement, un comité de soutien est créé en 1875. Le but de cet édifice et de ce comité, c'était de célébrer l'amitié entre la France et les États-Unis. À l'époque, c'était les deux grands pays symboles de la liberté. Tout le monde s'y met, les journaux ouvrent des souscriptions, on organise des galas un peu partout en France. Petit à petit, l'argent afflue, la construction commence, mais attention, morceau par morceau.
Ça veut dire quoi, morceau par morceau? C'était en kit?
Exactement, en kit. Hein. En fait, voilà comment ça se passait. Dès que Bartholdi rassemblait une partie de la somme, eh bien, il l'a dépensé pour construire un bout de la statue. Ensuite, ce bout, il l'exposait au public, histoire de motiver un peu tout le monde pour trouver de l'argent, et ainsi de suite. Alors, par exemple, la tête de la Statue de la Liberté, elle a été exposée au Champ de Mars, à Paris.
Et voilà. C'est génial. Et ça a fini... Ceux qui nous regardent à la télévision, franchement, regardez ces images, elles sont extraordinaires. On voit là, c'est la photo juste de la tête elle-même, gigantesque.
Posée dans un jardin.
Posée dans le jardin du
Et ça a très bien fonctionné, puisqu'en 1880, toute la somme est réunie. Et pour finaliser la structure, on embauche un jeune ingénieur, un spécialiste du fer qui s'appelait Gustave Eiffel. Et c'est lui qui construira plus tard la Tour Eiffel.
La statue, elle arrive quand à New York ?
En juin 1885. Mais là encore, problème, le piédestal n'est pas prêt. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on manque d'argent. Donc on recommence, on lance une nouvelle souscription aux États-Unis. Les Américains payent à leur tour. Et en 1886, donc un an après son arrivée, la statue de 93 mètres de haut est inaugurée devant 1 million de personnes. Son nom officiel, c'est la Liberté éclairant le monde. Et ce jour-là, un industriel qui a participé à la construction a une idée assez maligne. Il vend des miniatures de la statue juste à côté de l'endroit où a lieu l'inauguration. Cet industriel, c'était un chaudronnier. Il s'appelait Monsieur Gadget. Le mot gadget, ça vient de cette miniature.
Mais non. Mais non. Oh, mais j'adore
pas
cette
pour rien.
Histoire.
Je savais bien que ça vous plairait.
Quelle fierté d'avoir Arthur Chevalier avec nous tous les matins. Il est 7h25. L'autre fierté de cette matinale, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face à face.
Pas passé après ça,
J'avoue que Monsieur Gadget, c'est quand même
là,
très
Monsieur
fort.
Gadget. Là...
Dans le face à face tout à l'heure, c'est Monsieur Kepel qui est mon invité. Donc Gilles Kepel, le professeur émérite des universités spécialistes du Moyen-Orient.
Oui, oui. Donc voilà. Bonjour, hein. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Eh oui, c'est Gilles Kepel. J'attaque très fort. Il fallait relever le niveau après. Se mettre au niveau. Donc encore un spécialiste du monde arabe. On les voit partout en ce moment. Il y a qu'un seul spécialiste du monde arabe qui se fait discret là, c'est Jack Lang. Hein,
ah
on n'entend plus parler. Appelez-le, hein, tentez le coup. Allô, Jack Lang, RMC à l'appareil. Non, écoutez, je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. J'y connais rien en monde arabe. J'ai rien fait à la tête de cet institut. En 20 ans, j'ai fait quoi? J'ai inauguré 3 expositions de tapis berbères et le plat à tagine du 5e siècle. Mais sinon, est-ce que vous pouvez me citer une réalisation de l'Institut du Monde Arabe? Je n'ai rencontré aucun arabe chez Woody Allen. Et pour cause, je ne vois pas ce que des ayatollahs auraient fait chez le prince de l'humour juif. Oui, non, enfin bon, on aurait imaginé que vous auriez des choses à dire sur la situation. Oui, mais non, ça n'est pas parce que mon visage est tout en plastique que je suis une influenceuse bloquée à Dubaï. On me confond souvent avec Maeva Ghennam, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Alors Gilles Kepel, du coup, qui viendra nous exposer les derniers développements de la situation. L'Iran cherche un successeur à l'ayatollah Khamenei, tué par une trentaine de bombes de 500 kilos dans son quartier général. Disproportionné comme moyen. Quand tu penses pour mettre fin au jour d'un vieillard de 86 ans, il suffisait de l'héberger une semaine chez Orpea, puis c'était bon. Voilà. Et les gardiens de la Révolution cherchent encore un remplaçant. Alors, c'est un CDD, hein. C'est une mission de quelques jours, hein, mais c'est un précaire comme poste. Tu peux sauter à tout moment. Vous savez, c'est le cas de le dire.
Bah oui.
On disait hier sur notre antenne que nous vivions un moment historique, comme la chute du mur de Berlin, sauf que là, c'est tous les murs de Téhéran, Ispahan, Dubaï, Beyrouth, tous y tombent. C'est le changement de régime le plus radical depuis que Benjamin Castaldi a perdu 109 kilos grâce à 2 semaines du régime comme j'aime. C'est fou, hein? Alors, les Français sont inquiets aussi. Les Français sont inquiets aussi à cause du prix des carburants. Alors, moi, j'ai un petit conseil.
Vendez votre voiture.fr.
Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr et tenez, la mienne vaut 150. Putain, ça baisse vite. Hein. Et oui, avec ce qui se passe en Iran, la France, ça va être Mad Max. Alors n'attendez plus, vendez ce truc inutile pour acheter un vélo, une trottinette, des rollers, des échasses. Allez, je prends mes 150 €. 80, pardon. Mais 23. Oh bah merde, elle vaut plus rien. Allez, rendez-vous avec Gilles Kepel, 8h30.
Arnaud Demanche, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20. Il est 7h28, restez bien avec nous. Dans un instant, la météo du journal. 7h30, la pluie revient, Anthony.
Oui, la pluie revient par le sud et l'ouest. Et pour faire simple, aujourd'hui, seuls les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre et les régions frontalières de l'Est resteront au sec avec juste un ciel voilé, de plus en plus voilé par les poussières de sable du Sahara. Et les pluies seront particulièrement soutenues aujourd'hui sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec aussi de la neige, des 1800 mètres. Les températures toujours aussi douces, notamment cet après-midi, avec des températures souvent de 15 à 20 degrés. Mais ça commence à baisser par l'ouest, plus que 10 degrés à Brest et 13 à Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le difficile rapatriement des Français bloqués au Moyen-Orient. Un avion spécialement affrété a dû faire demi-tour à cause des missiles hier soir. Pendant ce temps-là, Donald Trump balaye l'idée d'envoyer des troupes américaines au sol en Iran. Le policier qui a tiré sur Naël ne sera pas jugé pour meurtre, mais pour violence. On vous explique pourquoi ni l'accusation ni la défense ne sont satisfaites. Et la Formule 1, c'est reparti. Premiers essais dans une ambiance à moitié électrique. Les nouvelles règles et les nouvelles voitures n'ont pas convaincu grand monde.
Un avion dérouté et l'attente se poursuit pour les Français au Moyen-Orient.
Vol Air France, affrété par les autorités pour récupérer certains ressortissants à Dubaï. Mais trop de missiles, trop dangereux. Il a dû rebrousser chemin sans atterrir et donc sans passagers. Louis était sur RMC ce matin. Il aurait dû être à bord avec sa fille et sa femme enceinte.
L'ambassade nous a appelés pour nous parler de ce vol. Donc on a eu 3 heures pour se rendre à l'aéroport. Sur la route, ça commence à un peu sur les WhatsApp à nous dire tire, il y a des tirs. Ça tire à Abu Dhabi. En arrivant à l'aéroport, je regarde et je me rends compte qu'à l'aéroport d'Abu Dhabi, tout le monde est confiné. Bon, pour le moment, le vol est maintenu. Et puis finalement, une heure et demie après, on nous dit que l'avion a dû faire demi-tour. Je l'ai traqué sur Flight Radar. Il n'a même pas pénétré la zone des Émirats. Il a fait demi-tour au-dessus de l'Arabie Saoudite.
Et 750 Français ont déjà été rapatriés. 5000 en ont fait la demande. C'est ce que disait le ministre des Affaires étrangères hier. Autre prise de parole marquante côté français. C'est Emmanuel Macron qui annonce hier soir l'envoi d'aide humanitaire au Liban, mais qui insiste. La France ne va pas s'engager dans cette guerre. Quant à Donald Trump, il affirme ce matin que les Américains ne vont pas envoyer de troupes au sol en Iran. Ce serait une perte de temps, dit le pensionnaire de la Maison-Blanche. Les États-Unis, par ailleurs, soupçonnés d'être à l'origine du bombardement d'une école en Iran et de sa destruction, provoquant la mort de dizaines d'enfants. C'était, rappelez-vous, dans les premières heures de guerre. Israël avait alors rapidement nié toute implication. C'était plus ambigu pour Washington, Romain Houg, et les premiers éléments d'une enquête de l'armée américaine elle-même pointent des responsables.
Oui, les enquêteurs pensent qu'il est probable que les États-Unis soient à l'origine de cette frappe meurtrière. Ce sont deux responsables américains qui parlent sous couvert d'anonymat, mais précisent que l'enquête n'est pas encore arrivée à son terme. Pour bien recontextualiser cette frappe, nous sommes le 28 février, au tout premier jour de l'opération militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Une base navale des gardiens de la Révolution est ciblée à Ninab, ville du sud du pays, à proximité du détroit d'Ormuz. Dans la frappe, une école pour filles adjacente à la base militaire est touchée par un missile tuant 150 écolières, selon l'ambassadeur iranien aux Nations Unies, sans que l'on puisse à ce stade vérifier ce bilan de manière indépendante. Le New York Times, journal américain de référence, a mené sa propre enquête, rassemblant des images satellites, déclarations officielles, des vidéos vérifiées. Tout cela tend à démontrer également l'implication de l'armée américaine, mais en assurant tout de même qu'il pourrait s'agir d'une erreur d'identification de la cible.
Les explications de Romain Houg pour RMC. Pour être complet sur ce qu'il se passe sur le terrain, sachez que ce matin, le Hezbollah libanais a revendiqué des tirs de roquettes vers Israël. L'État hébreu répond avec des raids aériens sur le sud du Liban. Sur l'autre front, Israël promet que la guerre avec l'Iran va entrer dans une nouvelle phase. Il est 7h35 sur RMC. Les deux camps soupçonnent une décision politique. Le policier qui a tué Naël, souvenez-vous, c'était à Nanterre en 2023. Eh bien, ce policier ne sera pas jugé pour meurtre. La cour d'appel de Versailles a ordonné hier un procès pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pierre Bazin, du service police-justice de RMC. Concrètement, ça signifie qu'elle estime qu'il n'y a pas eu volonté de tuer.
Oui, c'est une qualification moins grave qui a été retenue par la chambre de l'instruction. Elle considère que le policier qui a tiré sur Naël n'a jamais eu l'intention de le tuer. Maître Berton, l'avocat de la mère de Naël, dénonce une décision politique.
Cette décision est scandaleuse et elle est honteuse. Lorsque vous tirez sur quelqu'un à bout portant, eh ben ça fait 80 ans qu'on considère que c'est un meurtre. Et c'est surtout une décision qui ne correspond absolument pas à la jurisprudence, sauf si on voulait, à l'évidence, lui donner un caractère politique. On va quand même pas renvoyer un policier devant la cour d'assises, vous imaginez quand même.
Maître Liénard, l'avocat du policier, ne parle pas de victoire, mais évoque plutôt une décision qui va en partie dans le bon sens.
Ce qui est satisfaisant, c'est que la chambre de l'instruction
constate qu'il n'y avait pas d'intention homicide, c'est-à-dire que mon client n'a pas essayé de tuer M. Merzouk. Là où c'est pas du tout satisfaisant, c'est que la Cour ne va pas assez loin, c'est-à-dire qu'elle refuse de prononcer le non-lieu qui s'imposait. Est-ce qu'elle a cédé aux pressions? Je ne sais pas.
Avec cette requalification, le policier n'encourt plus 30 ans, mais 20 ans de réclusion criminelle.
Pierre Bazin du service police-justice de RMC.
7h36, c'est le grand retour de la Formule 1 ce matin.
Oui, les premiers essais sont partis. Ce matin, le premier Grand Prix en Australie, ce sera dimanche. Début de saison particulièrement scruté, Nicolas Paolorsi. Le règlement a complètement changé et ça inquiète les fans et les pilotes.
Oui, les nombreux changements interrogent. Moteur à 50% électrique, des départs désormais aléatoires et une gestion de l'énergie en course. Ce nouveau règlement inquiète même les stars de la discipline, Max Verstappen et Lewis Hamilton, au micro du diffuseur Canal+.
Je ne veux pas que l'on devienne la Formule 1. Je veux que l'on soit la Formule 1. Ne pas augmenter la batterie, se débarrasser de ça et se concentrer sur développer un bon moteur.
Ces changements sont un gros challenge. Les fans ne vont pas comprendre, même la plupart des ingénieurs n'arrive pas à comprendre.
Les observateurs aussi sont dans le flou le plus total. Jean-Luc Roy, consultant RMC Sport.
C'est absolument dramatique. J'ai du mal à me rappeler d'essais hivernaux ou d'essais de début saison où la majorité des pilotes aient été unanimes à ce point-là. La philosophie de ces changements, qui sont pour moi trop nombreux, vraiment trop nombreux, qui vont dérouter les spectateurs et les journalistes parce que nous n'aurons pas les moyens de savoir ce qui se passe dans la voiture. Maintenant, c'est essentiellement de la gestion d'énergie.
Jamais la Formule 1 n'avait connu un aussi grand changement dans son histoire. La révolution réglementaire provoque de nombreuses interrogations et promet une saison pleine d'incertitudes.
Au football, avec la victoire de Lens au tir au but contre Lyon hier soir, on connaît désormais les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Les 100 et or accueilleront Toulouse fin avril et Nice se déplacera à Strasbourg. Notez que ce soir, c'est le retour de la Ligue 1 avec un choc Paris Saint-Germain-Monaco.
Et puis le quintet, Victor, sur l'hippodrome d'Anguin, 20h15.
Oui, avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le numéro 5, Giacomo Bello, son outsider, le 10, Imhotep Fromentro.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38. Il y a Loïc qui nous appelle au 32-16. Loïc, vous êtes à Valence, dans la Drôme, et vous avez constaté donc les hausses des prix. Ça a même peut-être des conséquences sur votre manière de travailler. Racontez-nous, Loïc.
Oui, alors bonjour. Du coup, sur l'organisation du travail, on réorganise un peu les tournées pour essayer
vous
de
faites quoi design. Vous faites quoi dans la vie, Loïc?
Je suis un auto-entrepreneur dans le nettoyage.
D'accord, dans le nettoyage, ok.
Ouais, et du coup, je suis tout seul, hein, j'ai pas de salarié.
Ouais.
Et on réorganise, enfin, je réorganise un peu les chantiers pour rentabiliser les trajets, tout simplement. Comme l'infirmière qui était passée ce matin.
Ouais.
C'est compliqué, on remet pas mal de choses en question. Voilà.
Vous remettez des choses en question, en fait, depuis une semaine, depuis que les prix à la pompe augmentent et que vous anticipez que ça continue à augmenter. D'ailleurs, c'est ce que Francis Pousse nous disait déjà à demi-mot il y a une demi-heure. Ça veut dire que vous, par exemple, vous avez, normalement, vous faites combien de kilomètres chaque matin et vous avez combien de points sur lesquels vous vous arrêtez?
Alors, les kilomètres, ils sont très variables. Je vais pas d'un point A à un point B comme toute personne qui travaille, par exemple, dans des bureaux. Je fais des tournées, donc je peux faire 90 ou 70 ou 100 kilomètres dans la journée. C'est très aléatoire.
D'accord. Et donc là, comment vous allez faire? Vous allez prendre la carte et vous dire, voilà, je vais essayer de concentrer.
Alors, j'essaye déjà de base, parce que aussi, comme tout entrepreneur, on cherche la rentabilité. Mais par contre, pour anticiper, je suis un peu en colère parce que en 2025, j'ai passé une année, pardonnez-moi l'expression, mais avec les histoires de plafond de chiffre d'affaires qui nous avaient sorti en début d'année, ça m'a complètement plombé l'année, clairement, en fait, parce qu'on n'avait aucune vision.
Il y avait comme une épée de Damoclès autour de vous, au-dessus de vous, effectivement, parce que en fonction de, j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais en effet, dans les discussions sur le budget, il avait été question de vous taxer davantage, ou en tout cas plus tôt dans le chiffre d'affaires. Donc ça s'ajoute à ça, Loïc, pour vous, c'est ça.
Oui, on était éligible à la TVA, donc ça remettait toute la compta en question, c'était compliqué. Enfin bref, ceci étant, l'année 2025 est finie. On commence l'année 2026 avec ça.
Avec effectivement cette incertitude sur les prix du carburant et les conséquences. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler là-dessus. Il y a même des messages de boulangers qui commencent à dire, en fait, ça va avoir des conséquences en chaîne. Vous anticipez tous aussi sur votre chiffre d'affaires et vos frais. Merci beaucoup, Loïc, d'être intervenu au 32-16 comme lui. Vous n'hésitez pas. Et surtout, vous le savez, on vous aide à faire le plein. Allez sur le site rmc.fr et sur l'application. On a mis en place cette application en temps réel. C'est une carte interactive. On vous dira où faire le plein le moins cher possible à côté chez vous. Il est 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans le Finistère, c'est la chasse aux fraudeurs. Chasse aux fraudeurs du RSA. Et ça va d'ailleurs se terminer au tribunal. Le département a lancé le contrôle des allocataires de RSA. 3000 contrôles, 1200 radiations. La CGT attaque le président du département parce qu'ils estiment que c'est une véritable chasse aux fraudeurs et que c'est trop. Ce président du département, c'est vous, Maël de Calan, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous assumez vouloir faire baisser le nombre d'allocataires du RSA pour les remettre, je cite, au travail. Vous nous l'expliquez dans un instant sur RMC, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans le Finistère, c'est la guerre au RSA. Bonjour Maël de Calan, vous êtes bonjour le vous, président du département, président divers droite. La CGT dit que vous harcelez les allocataires du RSA. Ils dénoncent des radiations pour fraude 40 fois plus nombreuses qu'ailleurs. En effet, il y a eu 3000 contrôles et 1200 radiations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors d'abord, on a lancé un plan RSA qui fonctionne et qui a un grand succès reconnu au plan national. Le contrôle et la lutte contre la fraude forment l'un des piliers de ce plan, mais il y en a d'autres qui n'intéressent pas la CGT évidemment, mais qui se sont traduits par le retour à l'emploi de milliers d'allocataires. On a fait des tas de choses, on autorise le cumul entre le salaire et le RSA dans les métiers en tension, on fait des job dating, on a recruté des dizaines de coachs. Donc ça, la CGT n'en parle pas, mais je commence par cela parce que il y a la lutte contre la fraude, elle est importante, elle est prévue par la loi. Mais il y a plein d'autres choses qu'on fait pour aider les allocataires à revenir sur le marché du travail. Et je pense que ce qu'on fait dans le Finistère pourrait servir d'exemple au plan national.
Comment vous vous retrouvez avec 1200 radiations sur 3000 contrôles? Est-ce que ça veut dire... Pourquoi les autres départements, eux, n'ont que 4% de radiation et vous, presque 40 fois plus?
Non, alors ça c'est un mensonge, une fake news qui est propagée par la CGT, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont perdu tous les recours. Ce n'est pas le premier recours, il y en a eu plusieurs déjà au tribunal administratif qui ont tous été gagnés par le département du Finistère. C'est un simple mensonge lié au fait que quand vous êtes radié du RSA, vous pouvez l'être pour des raisons de fraude, et c'est le cas, on en fait plus que dans d'autres départements, mais vous êtes aussi radié quand vous retrouvez du travail, vous quittez le dispositif du RSA parce que vous avez des revenus supérieurs. Donc j'évacue cette information qui est tout simplement fausse. En revanche, il est vrai qu'il y a en ce moment plus de fraudes identifiées au travers des contrôles que nous lançons, tout simplement parce que par le passé, il n'y avait aucun contrôle dans le Finistère. Il faut que vos auditeurs sachent que le RSA...
Donc vous passez de rien à tout, quoi.
Absolument. Le RSA est une compétence départementale, de sorte qu'il y a 100 politiques, enfin, il y a autant de politiques, il y a 103 départements, il y a autant de politiques RSA qu'il y a de départements en France. Et dans le Finistère, pendant très longtemps, moi j'ai fait l'alternance, je suis divers droite, ex-jupéiste, j'ai succédé à 23 ans de gouvernance socialiste, au cours desquels la lutte contre la fraude était un gros mot. Et donc, nous n'en faisons pas plus qu'ailleurs, nous n'en faisons pas moins qu'ailleurs non plus, de sorte que quand on passe de rien à quelque chose, on identifie des centaines de personnes qui soit n'habitent plus dans le Finistère depuis longtemps, soit gagnent des revenus très significativement supérieurs au minimum exigé par la loi.
Et la réponse, elle sera donc au tribunal, Maël de Calan, puisque, je le disais, la CGT a décidé de vous assigner en justice. Donc vous êtes renvoyé devant le tribunal par la CGT et 6 anciens allocataires. Réponse en 2027. En tout cas, vous assumez, Maël de Calan, on l'entend bien ce matin. Merci d'avoir été avec nous en direct, Maël de Calan, donc président du département du Finistère. Il est 7h48, c'est vendredi. Et comme tous les vendredis, c'est le débat droite-gauche sur RMC. Charles Consigny, voix de droite. Bonjour, Charles. Cécile Duflot, voix de gauche. Bonjour Cécile. D'ici 2030, bonjour. Les mini flacons de shampoing et de gel douche vont être interdits dans les hôtels. C'est une décision de l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et qu'est-ce que ça dit au fond de notre époque? Vous n'êtes évidemment pas du même avis et vous allez en débattre dans un instant. Il est 7h48.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h50. Dans un instant, le débat droite-gauche. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, les Césars du jeu vidéo français.
Les Pégases 2026 qui ont sacré hier soir le jeu Clair-Obscur Expédition 33, chef-d'œuvre français, 4 prix, dont celui de meilleur jeu de l'année. Encore heureux pour ce jeu post-apocalyptique inspiré du Paris de la Belle Époque qui avait déjà raflé tous les prix, un record 9 prix au Game Awards, l'équivalent international des Oscars du jeu vidéo. Avec ce jeu, un petit studio montpelliérain remet la France à sa place sur la carte du jeu vidéo, alors que le géant Ubisoft est en souffrance. D'un mot quand même, dans ce paysage contrasté, il y a un autre titre qui a brillé hier soir, Absolum, produit par un studio parisien, preuve que malgré quelques turbulences, la création française continue de marquer des points dans le jeu vidéo.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h50, c'est vendredi, le débat, droite, gauche, Charles Consigny, côté droit, Cécile Duflot, côté gauche. Il y a cette information, d'ici 2030, les mini-shampoings, les mini-gels douche vont être interdits dans les hôtels. C'est l'Union Européenne qui a décidé de cela pour des raisons environnementales. Ça paraît anecdotique, mais pour vous, Charles, c'est franchement pas du tout anecdotique parce que ça montre quelque chose de notre époque.
En tout cas, oui, on peut considérer que c'est un sujet secondaire et sourire au fait que ça fasse l'objet d'un débat. Moi, je pense effectivement que c'est tout à fait symptomatique et emblématique de la société triste qu'essaye de nous fabriquer les jeunes gauchistes sans légitimité démocratique qui peuplent les instances européennes. Parce qu'on nous dit c'est l'Europe qui l'impose. Il faut voir ce que c'est l'Europe quand on dit c'est l'Europe. Quand on dit c'est l'Europe, ce sont des jeunes formés à Sciences Po ou dans ses équivalents européens, enténébrés dans le gauchisme, qui sont contre la croissance, contre l'avion, contre la propriété privée, contre l'ambition, contre la récompense du mérite individuel et qui veulent une société collectiviste et triste qui répond à leur tristesse. Vous savez, c'est Proust qui disait « on devient moral quand on est triste ». Eh bien, je pense qu'on est en pleine Europe triste et moi, je voudrais une Europe joyeuse avec des petits goodies dans les hôtels.
Cécile Duflot, l'Union européenne des gauchistes.
Alors, c'est pas toujours le cas, mais ce matin, Charles dit vraiment n'importe quoi, mais n'importe quoi en enfilant des perles. Pourquoi ? Parce que, en fait, le seul sujet, d'ailleurs, ce règlement, il a été voté très largement, y compris par tous les gens de droite, les amis de Charles Consigny. Pourquoi ? Parce que, en fait, le plastique jetable, qui a énormément augmenté, c'est du poison. Du poison pour notre santé, parce que ça contribue au dérèglement climatique, mais aussi, on le sait maintenant, parce que il y a une partie du plastique qui passe dans les produits, et notamment dans les produits cosmétiques, on le sait pour les bébés, et c'est dangereux pour la santé. Donc c'est une très bonne chose, en fait. Et par ailleurs, je pense que Charles survit sans touillettes en plastique, Charles survit sans étiquettes en plastique sur les fruits, Charles survit sans les bâtonnets pour se nettoyer les oreilles en carton plutôt
mais
qu'en
non.
plastique.
Je regrette ces pailles en plastique, par exemple, Cécile.
Et ben, c'est
que
vraiment
Trump
triste.
A rétabli aux États-Unis.
Eh ben franchement, c'est complètement idiot. Mais je le dis idiot, c'est-à-dire que la réglementation, notamment en alimentaire, ça a aidé à lutter contre des maladies très graves, contre des empoisonnements. Quand vous achetez de la nourriture au magasin, vous savez que vous risquez pas de vous empoisonner. Acheter du plastique, c'est contribuer à empoisonner nos générations plus les générations futures. Mais surtout, j'ai un chiffre marrant. Quand Charles est né, on produisait 1 million de moins de tonnes d'emballage en France. On a fait exploser la production d'emballage, pas du tout pour énerver des gauchistes, mais pour faire plaisir à des industriels du gaspillage. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Non, moi ce que je vois, c'est que l'Europe n'est plus qu'une machine à réglementer. Là où les Américains ont Elon Musk, nous avons Thierry Breton. Là où ils ont des entrepreneurs qui envoient des fusées dans l'espace, nous avons des hauts fonctionnaires qui donnent des leçons de morale sur les plateaux de télévision. Cherchez l'erreur. Moi je voudrais qu'on ait plus d'Elon Musk et moins de Thierry Breton. Je voudrais qu'on ait plus d'innovation et moins de réglementation. Et donc je pense que l'Europe se perd dans une société surréglementée et par ailleurs suradministrée, surfiscalisée. Donc ces petits détails qu'on vient de citer, parce que Cécile a raison d'en citer d'autres, moi je pense que c'est sans fin, si vous voulez. Si vous voulez créer une société qui soit complètement écolo, complètement sociale, complètement juste, vous pouvez le faire, mais vous allez arriver à une société collectiviste qui va complètement brider les individus. Et je pense qu'en Europe, les individus sont trop bridés.
C'est une société vivante, C'est-à-dire que le sujet, c'est que c'est pas pour embêter Charles qui pourra pas voler un petit shampoing dans l'hôtel comme on l'a tous fait. Le sujet, c'est de savoir si oui ou non on veut que notre espace de vie, c'est-à-dire notre continent, mais aussi notre planète, reste vivable pour l'humain. C'est ça le sujet. C'est pour ça qu'il faut lutter contre la production de plastique et aussi pour conserver du pétrole, parce que le pétrole, c'est très utile. Et gaspiller du pétrole pour des petits bouteilles de shampoing qu'on va, pour certains, même pas utiliser ou à moitié, ça n'apporte rien à personne, en fait. Le gaspillage, ça n'apporte rien à personne et le supprimer, c'est très utile à tout le monde.
On est d'accord là-dessus, Charles ?
Non, je pense encore une fois que c'est sans fin. C'est-à-dire, ça va de la petite bouteille de shampoing à la voiture individuelle, à la durée pendant laquelle vous avez le droit de prendre votre douche, à l'électricité que vous avez le droit d'utiliser, au nombre de personnes que vous avez le droit d'être dans un appartement. Mais votre logement est trop grand pour une personne seule, vous devez avoir un appartement plus petit, etc., etc. Et d'ailleurs, on l'a vu sur la voiture où Madame von der Leyen et l'ensemble des institutions européennes ont craché l'industrie automobile européenne en obligeant l'interdiction de la voiture thermique d'ici à 2030. Finalement, ils ont été obligés de revenir dessus parce que c'était pas viable et ça tuait notre industrie. Moi, je suis contre cette société triste.
Merci, Cécile Duflo. Et Charles Consigny, un dernier mot, allez-y, Cécile.
Ben non, elle est pas triste, cette société. Justement, elle pense à l'avenir. Et ça, c'est gay.
Cécile Duflo, Charles Consigny, tous les vendredis, le débat, voix de droite, voix de gauche. Il est 7h56. On se retrouve dans un instant. La météo et le journal. Du côté de la météo, c'est le retour de la pluie. Et du côté du journal, vous l'entendrez, il y a eu des nouveaux bombardements cette nuit en Iran, au Liban, en Israël. La France ne va pas s'engager dans la guerre. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. On y revient dès le début du journal. Juste après, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel de Chypre. Emmanuel, si les carburants augmentent, eh ben, c'est pas le cas de l'électricité.
Oui, pour le moment, le cauchemar de 2022 ne semble pas devoir se reprofiler. Je vous explique.
Vous nous le dites dans un instant, restez bien avec nous, 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.